Alors, je te passe le micro, Clara.
Ouais, en fait, je veux juste présenter en 30 secondes le petit extrait qu'on va écouter. C'est en fait, donc pendant cette commémoration, il y avait plusieurs intervenants. On va en écouter une. En réalité, c'était une femme. Donc voilà, japonaise d'origine, qui va nous expliquer sa petite intervention. Elle a fait en particulier, elle s'est focalisée sur le sur l'impact de Fukushima sur les animaux, parce qu'on n'en parle pas du tout, mais c'est aussi important. Et ça va être suivi juste après d'un extrait d'un documentaire qui s'appelle Fukushima, une population sacrifiée. C'est un documentaire de 50 minutes qui a été projeté lundi dernier à cette commémoration, qu'on peut retrouver librement sur YouTube. Donc je vous invite à aller le voir parce qu'il est très très intéressant. Et on va écouter tout de suite un extrait. En fait, c'est le début, les quelques premières minutes. Voilà. Bonjour, alors donc on est à l'événement pour la commémoration de l'accident de Fukushima. Alors vous êtes l'organisatrice de cet événement, est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de la raison pour laquelle vous avez voulu organiser ça et voilà, de ce qui va se passer et tout ça?
Sure, it's actually organized by a group of students and members of Kizuna Japon, which is an organization locally focused on the effects of radiation on children, and some concerned community members, and we're here for an evening of films and discussion and talks and activities for children, such as manga making and banner making, to raise awareness about the ongoing crisis in Fukushima. We want people to know that the problem is not over, and that it's a problem that is also very relevant to people in Quebec as well. And so we're here to mark the second anniversary of the beginning of the disaster.
Ok, awesome. And vous êtes ici à Montréal, mais vous êtes japonaise, vous allez là-bas régulièrement.
I live here. My name's Adrienne Hurley, and I teach at McGill. I teach East Asian Studies, and I go to Japan sometimes. My primary focus of what I teach is Japan Studies. And over the past couple years, I've been able to participate in anti-nuclear actions and protests both in Japan and also here. And so, so I feel like it's very relevant to those of us who live here, what's going on there as well.
Et alors, est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu une idée de la situation du Japon aujourd'hui, 2 ans après cette catastrophe qui a été vraiment médiatisée partout dans le monde, vu l'ampleur de la catastrophe? Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus d'aujourd'hui? Est-ce que le Japon s'est relevé de cette catastrophe ou pas encore?
It's definitely still ongoing, and just briefly, that you see the effects, everything from the mutations in butterflies in Fukushima. You can find information out easily if you search the internet on the mutations in butterflies, thyroid abnormalities in children. Sorry. And there's also a growing protest movement against nuclear power, and there have been targeted arrests of activists, ranging from professors to anarchists who've been imprisoned for doing stuff as simple as walking in a train station because of the government's efforts to repress the anti-nuclear movement. So it got kind of noisy. I'm sorry, I'm not like...
Bonjour, alors vous êtes ici pour la commémoration de Fukushima. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement?
Mon nom c'est Sumi Hasegawa. J'ai enseigné à l'université de McGill jusqu'en 2011. Juin 2011, je me suis retraitée déjà, mais j'ai toujours relation avec mon ancien collègue et puis étudiant. Et puis j'ai entendu que l'étudiant organise de anniversaire de Fukushima, de l'événement de l'anniversaire de Fukushima, donc je suis volontaire de venir ici et puis je préparais un peu de situation d'animaux dans le Fukushima.
Et alors, pendant la catastrophe, vous étiez ici à Montréal ou là-bas au Japon?
Non, je suis ici depuis plus de 30 ans, mais j'ai entendu beaucoup de choses de mes familles ou mes amis de là-bas.
Et vous y êtes retourné depuis?
Non, pas encore. Peut-être cet printemps j'y vais, mais je suis vraiment étonnée et désespérée de façon que le gouvernement du Japon réagit donc j'étais vraiment fâchée et je ne suis pas retournée à cause de ça.
C'est-à-dire la façon dont réagit le gouvernement après ça, c'est ça?
Oui, oui, c'est ça, parce que même par exemple comme l'accident de Fukushima, le gouvernement dit que c'est presque fini, mais c'est pas vrai du tout, c'est pas vrai du tout, il y a encore de 30 millions de je ne sais pas exactement le nombre, mais les gens qui ne peuvent pas entrer dans la maison et puis ils n'ont aucun aide, presque aucun aide du gouvernement. Et puis les animaux qui étaient dans la zone de, on appelle ça non-entry zone, mais les gens sont sortis, mais ils ont laissé les animaux et ils ont abandonné.
Oui, d'après vous, même aujourd'hui, 2 ans après, c'est encore un très grand traumatisme pour la population japonaise.
Oui, bien sûr, bien sûr. Et puis aujourd'hui, comme c'est le 2e anniversaire, il y a beaucoup de, même Internet, il y a beaucoup de gens qui interviewent les gens de région. Et puis tout le monde dit que c'est pas fini du tout, c'est pas avancé du tout.
12 mars 2011, à peine 24 heures après un tsunami dévastateur, le réacteur numéro 1 de la centrale de Fukushima Daiichi explose. La première catastrophe nucléaire du troisième millénaire commence. Dans les jours suivants, 2 autres réacteurs sont endommagés, libérant des milliards de particules radioactives dans l'environnement.
TEPCO dit que la radioactivité qui s'échappe de la centrale ne lui appartient plus, mais elle appartient aux propriétaires des terrains sur lesquels elle tombe.
Les principaux poisons relargués par la centrale sont l'iode et le césium, qui peuvent voyager sur des centaines de kilomètres et sont très cancérigènes. Dans les premiers jours, les autorités procèdent à des mesures pour évaluer la contamination des individus, mais la distribution de pastilles d'iode, seul moyen de protection immédiate, n'est pas généralisée. Et rapidement, le gouvernement proclame que la situation est sous contrôle.
Ce n'est pas nous qui avons choisi les centrales, c'est l'État qui nous les a imposées.
Dans les semaines suivant la catastrophe, l'État japonais stoppe 90% de ses réacteurs nucléaires, faute de pouvoir en garantir la sûreté. Pour Fukushima, il est trop tard, et d'après les experts, il faudra au moins 30 ans pour dépolluer totalement la centrale et la démanteler. En attendant, c'est une région entière qui doit subir les terribles conséquences des radiations.
Je suis fatiguée. Parfois, je me sens complètement perdue. Et tout ça, tous ces problèmes de radioactivité, c'est entièrement la faute de TEPCO.
La colère gronde dans un pays d'ordinaire très soumis à l'autorité. Car plus d'un million de Japonais vivent dans des zones gravement contaminées par la catastrophe nucléaire. À commencer par Fukushima City, où plus de 300 000 habitants vivent à 65 km de la centrale en ruine. Mais l'État, qui voudrait tourner la page au plus vite, répète que la région n'est pas dangereuse et qu'il n'y a pas de risque pour la santé des populations. Très méfiants, des experts français se sont rendus sur place dès le mois de mai 2011 pour en avoir le cœur net. Ils sont membres de la CRIRAD, une organisation indépendante qui procède à de nombreuses analyses de radioactivité. Ils avaient par exemple été parmi les premiers à révéler que le nuage de Tchernobyl avait bien franchi les frontières françaises.
Donc là, on a passé les 1000 chocs secondes. On est dans la voiture à 10 fois plus que le niveau, au moins 10 fois plus que le niveau habituel.
Avec eux, un Japonais révolté, Wataru Iwata. Simple citoyen, musicien dans la vie, il n'a aucune connaissance scientifique. Persuadé que le gouvernement cache la vérité, il apprend avec les ingénieurs français à collecter des données indépendamment des autorités. C'est dans une école primaire de Fukushima City que nos scientifiques ont débuté leur enquête.
Alors ça, c'est apparemment le terrain de sport.
2008.
Ça commence à être élevé là, tu vois.
Là, je crains le pire. Parce que là, on voit, il y a une zone d'accumulation à cause de la pluie. Alors là, c'est monstrueux, là. Là, on est à 6500 chocs, là. Sur cette espèce de terre sablonneuse, là, au pied des balançoires. Donc, ça veut dire que les enfants raclent leurs pieds là-dedans, doivent lever de la poussière. On a 6500 chocs au contact. et à 1 mètre, on a 3000 chocs. Moi, j'enlève mes enfants de cette école immédiatement. Et je vois que tout le monde est là, comme si rien ne s'était passé. Globalement, là, le terrain de foot est entre 2007 et 3500 chocs.
Au contact. Hein.
Au contact. C'est-à-dire...
Ouattara n'est encore que simple assistant. Il se forme chaque jour pour pouvoir apporter des réponses aux habitants de Fukushima. Car c'est ici qu'il vit. Il connaît mieux que personne les inquiétudes des mères de famille.
Il y a des radiations ici, c'est certain. Mais le problème, c'est que ça ne se voit pas. Alors même si c'est dangereux, ici, comme ça ne se voit pas, ça ne se sent pas, eh bien les enfants continuent à jouer comme avant.
8000, 7000, 6009, 7000, 8000, 8004, 5000, 4008...
Les autorités disent que c'est un lieu sûr. Pourtant, les mesures disent que c'est dangereux ici. Alors sur quoi ils se basent pour affirmer que c'est sûr? Nous ne sommes pas des spécialistes. Moi, je ne suis qu'une mère de famille. Et je n'y connais rien. Il y a beaucoup de parents qui ne reçoivent aucune information. Ça les angoisse.
Je ne peux vraiment plus supporter de voir les enfants comme ça. Nous ne sommes que des pauvres gens. On ne peut rien faire. Mais le pays ne fait rien non plus. Je voudrais que l'État prenne vite des décisions pour nous aider. Il faut qu'il fasse vite. On en a besoin.
Malheureusement, le gouvernement n'a rien fait pour Fukushima City. Les écoles sont restées ouvertes car les autorités estiment que la ville est hors de danger. Nous y sommes retournés près d'un an après l'accident et la situation est toujours aussi critique. Malgré les mois qui passent, les niveaux de radioactivité n'ont pas baissé. Et pour cause, le césium, principal élément radioactif échappé des réacteurs, est très tenace. Partout où il s'est déposé, il faudra 30 ans pour que la radioactivité diminue seulement de moitié. Dans ce jardin d'enfants de Fukushima, officiellement décontaminé, nous mesurons les radiations en temps réel. Et les taux sont terrifiants. Jusqu'à 6,35 microsieverts par heure au pied de ce toboggan. C'est 100 fois plus que la radioactivité naturelle mesurée en France. Depuis le début, l'État sous-estime totalement l'ampleur de la contamination. Ainsi a-t-il défini des zones de risque par cercle concentrique. Et seul un rayon de 20 km autour de la centrale a été vidé de ses habitants et interdit d'accès. Pourtant, les autorités disposaient d'un logiciel nommé Speedy qui indiquait clairement que le vent avait poussé les dangereuses particules radioactives jusqu'à plus de 80 km.
Et cela...
S'ils avaient informé la population, on aurait compris que la radioactivité ne se propage pas du tout en cercle. Et on aurait su bien plus tôt dans quelle direction le vent la poussait et sur combien de kilomètres les substances ont été étalées. Ainsi, on aurait pu savoir précisément quels habitants devaient impérativement se réfugier. Mais au début de la crise, par peur de créer la panique, le gouvernement a décidé de ne pas publier les résultats du logiciel Speedy. Et au lieu de donner les vraies informations, ils ont évacué les habitants autour de la centrale en fonction de simples cercles. C'est une mesure qui n'est absolument pas scientifique.
Le professeur Koide est l'un des seuls scientifiques à oser remettre en cause le message du gouvernement. Il l'a d'ailleurs payé cher. Exilé, il travaille seul, dans un laboratoire vétuste loin du centre de Kyoto. Mais rien n'arrête sa détermination contre la politique nucléaire nippone.
Pour les habitants du Japon, il y avait une loi affirmant qu'on n'a pas le droit d'être irradié ni d'irradier quelqu'un au-delà de 1 millisievert par an. Mais après avoir vu ce qui s'était passé, le gouvernement a mis au rebut toutes les lois sur le sujet. Ils ont commencé à dire qu'on serait obligé d'être irradié à bien plus d'1 millisievert par an. Et désormais, on accepte que les habitants vivent dans des zones où la terre est polluée à plus de 40 000 becquerels par mètre carré. J'ai compris malheureusement que le Japon n'était plus du tout régi par la loi.
Seul le cercle des 20 km autour de la centrale nucléaire reste interdit d'accès. Mais au-delà, l'État estime que la vie peut reprendre normalement son cours, en dépit des radiations. C'est le cas à Minamisoma. À deux pas du checkpoint, le gouvernement a construit des habitations temporaires pour reloger les réfugiés du tsunami qui ont tout perdu. Après le traumatisme du séisme, ils doivent désormais vivre sous la menace permanente d'une centrale qui continue à fuir.
Si je pouvais, je partirais très loin de la radioactivité. On m'a dit que je pourrais rester ici pendant 2 ans. Mais après, je ne saurais pas où construire une nouvelle maison tant que le problème de la centrale ne sera pas réglé. Je me fais beaucoup de soucis.
Est-ce que vous sortez souvent dehors ici ?
Non, elles ne sortent pas.
Je sors que pour accompagner ma grand-mère. Sinon, je ne marche pas dehors, même pas pour aller à la boutique pas loin d'ici.
Mais vous vous amusez un peu quand même ?
On s'amuse, oui, un peu.
Mais la maison est trop petite pour jouer, hein ?
De temps en temps, on essaye de sortir. Avant, pour le nouvel an, j'étais partie en vélo pour aller lancer des cerfs-volants à Haramachi. Mais maintenant, on ne peut plus faire du vélo. C'était radioactif, mon vélo.
Mais le tsunami l'a emporté, ton vélo.
Je n'ai plus de nouveau vélo. À la maison, je n'ai qu'un vieux vélo.
L'angoisse des familles est compréhensible. Depuis le 19 avril, au mépris des normes internationales, le gouvernement japonais a décrété que la dose annuelle maximale admissible ne serait plus de 1, mais de 20 millisieverts pour tous, femmes, enfants, vieillards. L'objectif inavoué, ne pas devoir évacuer de nouvelles zones, en particulier Fukushima City.